L'amour et l'intelligence. La prolongation de la fusion psychique avec l'enfant par les parents ou les éducateurs au-delà des premiers 18 mois, que j'ai appelé fusion secondaire, montre un égocentrisme et un narcissisme farouche. Il s'agit d'un pouvoir manipulateur et non pas d'amour. C'est de la possessivité liée à l'affectivité que l'on a l'habitude d'appeler dans notre habituelle hypocrisie culturelle l'amour. Il est intéressant de noter que le langage populaire parle à cet égard d'amour aveugle, ou par exemple en allemand de Affenliebe, amour des singes, ce qui montre que même l'esprit laïque juge péjorativement une telle façon lascivement symbiotique d'aimer. Il est propre à la relation fusionnelle que l'un des partenaires essaie de manipuler l'autre. L'amour, en revanche, se fonde sur la liberté affective et n'est pas envisageable sans l'autonomie personnelle des deux partenaires, qu'ils soient liés par des liens de famille ou non. Les névroses et les psychoses proviennent toutes de problèmes fusionnels. Les symptômes névrotiques sont des signaux de l'âme qui doivent rendre attentif au conflit intérieur de la personne souffrante, conflit qui trouve son origine dans la prime enfance. Dans la psychose, le moi se trouve envahi d'énergie que le moi ne peut gérer et qui proviennent d'autres personnes. Ce sont des énergies étrangères au moi et elles aliènent ce dernier, le menaçant dans son intégrité. La psychose ne peut atteindre qu'un moi défectueux, une personne qui est plus ou moins incapable de différencier sa propre énergie des énergies de son entourage humain, une personne incapable d'identifier son énergie propre. À un degré moins pathologique, beaucoup de gens de notre culture sont par ailleurs incapables de pouvoir distinguer leur propre énergie de celle des autres. C'est un problème d'identité qui est le résultat inévitable de notre système d'éducation aliénant, du dressage collectif qui est l'ennemi de l'épanouissement de l'enfant originel et unique. L'amour commence avec soi. Quand nous commençons à respecter davantage notre unique soi, nous apprenons d'abord de nous concentrer sur notre propre énergie, nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres intuitions, nos propres visions de la vie, sans d'abord écouter ceux des autres. C'est ainsi que nous arrivons à apprendre à distinguer notre « pattern » énergétique de l'énergie des autres. Quand je parle ici d'énergie, j'implique l'énergie vitale, la radiation énergétique subtile de tout corps vivant. Développer un sens de l'observation réceptive à l'émanation énergétique subtile d'un être vivant n'est qu'une question d'exercice. Il faut devenir sensitif, sensible à et conscient de cette énergie vitale. Par ailleurs, dans nos rêves, nous identifions tous les êtres que nous rencontrons par leur énergie spécifique, énergie ou émanation, que nous ressentons intuitivement comme agréable ou désagréable, aimante ou hostile. Souvent, nous perdons le souvenir exact du rêve et seul reste un vague sentiment, et ce sentiment, quand nous dirigeons notre attention vers lui, nous rappelle la personne dont nous avons rêvé. Ce sentiment n'est autre que la perception de l'énergie de la personne rencontrée dans le rêve. Dans l'état de rêve, nous sommes effectivement en possession de capacités psychiques dont nous ignorons pour la plupart l'existence à l'état de veille. Ceci en raison du conditionnement négatif vis-à-vis des facultés psychiques, conditionnement typique de notre culture matérialiste, cartésienne et aveugle. Par l'application des principes d'amour dans notre vie, par l'observation attentive de nos sentiments, de nos pensées, de notre énergie, et l'interaction de notre énergie vitale propre avec l'énergie vitale des autres, nous allons développer petit à petit plus d'autonomie et par là davantage d'identité et d'authenticité. L'observation attentive du processus total de la vie doit se référer non seulement à notre vie personnelle, mais il doit aussi englober la vie en tant que telle dans sa totalité. La vraie spiritualité n'est rien que cette observation holistique de la vie. Elle représente la plus haute forme de conscience et d'évolution humaine. Cette observation ne doit pas seulement porter sur notre conscience de veille, le contenu de notre pensée, mais aussi sur le processus total de notre pensée et l'imagination subconsciente qui est dans un état de mouvance perpétuelle. Ceci peut se faire en pratique par l'observation attentive de nos rêves ainsi que par des techniques projectives de prise de conscience telles que le tarot, le I Ching, la géomancie ou autres pratiques divinatoires. En outre, une attention accrue aux signaux qui nous sont envoyés par la vie en forme de coïncidence et donc à la synchronicité devrait se joindre à cette observation du processus total de la vie. Une telle intensité de conscience requiert un considérable investissement d'énergie vitale. C'est cet usage intelligent de l'élan vital qui aboutit à la dissolution de relations fusionnelles et symbiotiques avec la famille, le nid, la matrice, la généalogie et par ce faire à une intelligence de génie cosmique. L'amour est l'usage le plus haut et le plus noble de l'énergie vitale. Il nous éloigne de l'arbre généalogique et nous transporte vers l'arbre de la vie.